Dernier jour de la canicule, dernier jour officiel d'après la météo. Et c'est l'équipe réduite, c'est une équipe réduite pour les voies de service magazine.
L'équipe de vacances.
Ben, c'est juste un intermède, il me semble, hein? C'est juste pour cette semaine. Après ça, on revient avec l'équipe normale pour tout le mois de juillet. Alors, Marie Lalande, qui
vient
le micro, avec Maurice Bolduc, qui va nous encadrer à la technique. Et c'est Yvan Deslauriers qui va...
Qui va mettre son micro du bon bord.
Qui va mettre le micro du bon bord et s'entendre. OK? Alors, donc, Marie aussi, semble-t-il. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez entendu du début de l'émission.
Bon, faiblement. Alors,
Nous revoici maintenant plus en direct. L'équipe, je disais qu'on était l'équipe réduite.
Oui.
On est réduit même au niveau du micro. Mm-hmm. Alors, on repasse ça de façon correcte. Et Marie, qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui?
Alors, d'abord, je vous parle du jeu, l'importance du jeu chez les enfants, puis de ce qu'on peut faire comme parents pour soutenir ça. Dans un deuxième temps, je vous parle d'une étude qui a été faite à propos des enfants et du fait qu'ils sont maintenant plus patients que les enfants des années 70, les années 60 et les années 80.
Ils sont plus patients.
Oui, monsieur.
C'est peut-être les parents qui
sont
moins.
C'est scientifiquement prouvé et je vous parle de beaux projets de verdissement de cours d'école.
Oh, OK.
Ouais, voilà.
Okay. Moi, de mon côté, je commence avec une réflexion qui s'appelle « Mode de survie » qui nous est proposée par Mylène Paquette. C'est suivi en deuxième portion d'émission par un carnet d'endorphines que tout le monde aime bien.
Oui.
Ça s'appelle La Quête et je l'ai proposé parce que demain, moi, je m'en vais faire du vélo de longue randonnée. Je fais 2 jours de 130 km et plus. Et cet article-là touche un peu aux raisons pourquoi on fait des affaires comme ça. Et je finis par une histoire vraiment motivante. Ça s'est passé au demi-Ironman de Mont-Tremblant il y a 2 semaines et ça s'appelle « Sans limite ». Et si on a un peu de temps, ben je vous amène à New York. Sinon, ce sera une autre fois.
C'est ça.
Alors, je vous amène sur une réflexion qui s'appelle « Sur le mode de survie » qui a été écrit par Mylène Paquette dans le magazine Espace de juin 2018. Elle nous raconte que « J'ai récemment été approchée pour participer à une émission de survie extrême. Échelonnée sur 10 semaines, l'émission présentait un scénario fort intéressant dans un cadre hostile. Les participants doivent se construire un abri, trouver de la nourriture et de l'eau potable et survivre en milieu naturel tout en se mesurant les uns aux autres. Même si j'ai trouvé l'invitation intéressante, c'est avec un certain soulagement que j'ai réalisé que mon agenda ne pourrait pas me permettre de l'accepter.
Je ne pouvais pas.
Je me sentais plus ou moins à la hauteur de cet immense défi. Depuis plusieurs années, des émissions comme Survivor ou Expédition Extrême gagnent en popularité. Ce type d'expérience fascine son auditoire car elle met en scène l'humain dénué de tout soutien technologique et moderne face à une nature rude et sans pitié. Serait-ce ce genre d'émission populaire qui pousse tant d'adeptes à vivre eux-mêmes l'aventure de la survie en forêt? De nos jours, bon nombre d'écoles et d'organismes offrent des ateliers de toutes sortes liés à la survie. Bien que plusieurs étudiants et plénéristes soient motivés par ces cours en prévision du jour où ils pourraient s'égarer réellement dans les bois, d'autres s'en passionnent simplement pour le seul plaisir de vivre l'expérience de la survie en milieu hostile. D'autres encore cherchent à vivre des épreuves singulières pour repousser leurs propres limites et avoir un contact différent avec la nature. En tout état de cause, vivre une telle expérience avec comme soutien sa propre intuition et des connaissances nouvellement acquises permet de développer la confiance en soi lors de la prise de décision, mais aussi de donner un aplomb sans précédent à son leadership. Ceux qui sont motivés par le désir de retrouver de lointains savoirs du passé, de reconnecter avec leurs racines ancestrales et de renouer avec leurs aptitudes naturelles et primales sont alors bien servis. En cette ère où les communications, le stress et la consommation font partie du quotidien, on oublie trop souvent de répondre à nos besoins primaires. Vivre une connexion aussi intime avec la nature permet de redonner toute leur valeur aux actes de manger, de dormir et d'assurer sa protection. En plus d'évoluer dans un univers très balisé, notre société est de plus en plus hermétique et aseptisée. Même lors d'activités de plein air, le confort matériel auquel nous avons accès nous empêche bien souvent de vivre pleinement l'expérience de la nature profonde, d'être en réel contact avec elle. En plus de permettre d'acquérir de nouvelles aptitudes et de repousser ses limites, la survie permettrait de cultiver une certaine sagesse et de mieux apprécier la vie moderne. Car être aux prises avec la nécessité de combler nos besoins de base, essentiels à la survie, nous obligerait à nous plonger dans le présent, dans l'ici et le maintenant, et à reconnecter avec notre nature profonde. Loin de la considérer comme un supplice, certains adeptes voient cette activité comme une méditation en plein air. Même si les activités de survie sont normalement supervisées et sécuritaires, l'expérience demeure authentique car elle entraîne des états d'esprit rarement apprivoisés dans le quotidien. Supporter un froid intense ou un manque de sommeil sur une période prolongée ou encore composer avec la peur et la faim extrême, par exemple. Et quand on pense à la multitude d'applications et de gadgets qui nous aident à gérer notre quotidien, quand manger, combien ne pas ajouter à sa marche, utiliser un simulateur d'aube pour se réveiller naturellement, il n'est pas surprenant d'assister à un réel engouement pour la survie en plein air de nos jours. Donc, c'était l'article sur le mode de la survie qui était proposé par Mylène Paquette dans le magazine Espace de juin 2018.
Et si je comprends bien, donc, elle en parle, mais elle n'est pas allée.
Elle n'est pas allée.
Cette fois-là.
Mais elle aurait aimé participer à une activité comme ça parce que ça la décroche de ce qui se fait tous les jours, puis ça la remet sur les besoins primaires particuliers.
Je comprends.
Alors voilà. Alors, ça, c'est pas nécessairement en forêt, ça peut être n'importe où.
Ah, ça peut être partout, à l'intérieur, à l'extérieur. Mm-hmm. Comment valoriser le jeu chez les enfants en tant qu'adulte? Un texte de Mathieu Point, professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Trois-Rivières, publié sur le site aidersonenfant.com le 22 mai 2017. Donc, ça fait déjà un an, mais c'est toujours actuel.
Oui, parce qu'on joue quand
on
continue à jouer.
Tout à fait, on veut jouer. Le jeu est au cœur de l'apprentissage des enfants. C'est pourquoi il se trouve au centre des programmes éducatifs du préscolaire. En service de garde, comme à la maternelle, une grande place est accordée au jeu dans le développement de l'enfant. Tous les domaines de développement des enfants, cognitifs, sociaux, affectifs et physiques, sont intimement liés. Durant l'enfance, le jeu permet de développer chacune de ses compétences de manière directe et indirecte. En jouant, les enfants apprennent et pratiquent leurs compétences cognitives telles que le langage, la résolution de problèmes, la créativité et l'autorégulation. Ils développent aussi leurs compétences socio-émotionnelles grâce à leur capacité à interagir avec les autres, à négocier et à faire des compromis. Ils pratiquent également des stratégies pour faire face à la peur, à la colère et à la frustration. De plus, les activités ludiques comme les jeux de construction, les blocs, dessiner, courir, sauter et lancer contribuent au développement de la motricité fine et globale. Le jeu est crucial pour le développement immédiat et à long terme des enfants. Ceux qui se voient refuser beaucoup d'occasions de jouer peuvent souffrir de graves effets négatifs sur leur santé et leur bien-être. Par ailleurs, les possibilités pour les enfants de jouer librement, en particulier à l'extérieur, ont été considérées réduites ces derniers temps. En tant qu'adultes, nous influençons beaucoup le jeu des enfants et ce, de différentes façons. Nous influons sur ce que les enfants peuvent explorer et expérimenter par les permissions qu'on leur donne. Nous accordons le temps qui leur est imparti pour jouer. Nous contrôlons l'environnement de jeu dans lequel ils peuvent évoluer et sur le matériel de jeu mis à leur disposition. Le rôle de l'adulte est d'offrir aux enfants du soutien, des accessoires de jeu, du temps et de l'espace pour développer leur jeu. Ce rôle implique de nombreuses dimensions, notamment savoir quand intervenir, savoir on s'excuse, Siri est partie à ma place, on va fermer ça immédiatement. Alors, savoir quand intervenir, pas Siri, mais nous les parents.
Oui, c'est ça.
Savoir quand prendre du recul pour laisser l'enfant développer son propre jeu, prendre du temps pour observer et consulter les enfants, planifier le jeu et y participer. Lors de la planification du jeu, l'adulte doit créer des environnements de jeu à l'intérieur et à l'extérieur, environnements qui fournissent aux enfants un large éventail de possibilités. L'adulte prépare, planifie, organise des expériences de jeu qui sont sécuritaires, stimulantes, inclusives et agréables. Il offre aux enfants des choix sur ce qu'il peut faire et quand il le peut. Maintenant, quand intervenir? Pour favoriser le jeu des enfants, l'adulte doit en parler avec eux. Il doit reconnaître, respecter et soutenir les choix de jeu des enfants. Parfois, il peut y avoir une tension entre ce que l'adulte considère comme approprié et ce que les enfants veulent faire. Par exemple, lors des activités ludiques turbulentes ou les batailles, l'adulte doit alors superviser les enfants en prenant part au jeu.
Oui, c'est ça.
Lorsqu'il a été invité ou quand il peut y apporter une contribution positive. Par exemple, des enfants jouent à un jeu de construction avec des blocs. L'adulte, voyant que le jeu n'évolue plus, peut proposer d'ajouter de petites voitures pour que les maisons construites représentent une ville qui prenne vie. Ainsi, l'adulte peut aider les enfants à acquérir les compétences pour jouer. Il doit représenter un modèle pour les comportements de jeu. L'enfant, en regardant l'adulte jouer, sera amené à imiter les comportements et donc à acquérir les comportements attendus. L'adulte doit être conscient et respectueux des sentiments des enfants, de leur langage et de leur capacité et permettre à tous les enfants de jouer. Il doit favoriser l'interaction entre les enfants et agir comme un médiateur si le besoin se fait sentir. Il doit intervenir en cas de risque de blessure grave, est-il nécessaire de le souligner, qu'elle soit physique ou émotionnelle, en cas d'intimidation ou de rejet, par exemple. Une fois que les enfants sont en train de jouer, le rôle de l'adulte ne s'arrête pas là. Il doit les observer pour recueillir des informations. Par exemple, observer comment l'espace et l'organisation de l'environnement intérieur et extérieur soutiennent ou entravent le jeu. En résumé et concrètement, voici comment l'adulte peut s'impliquer dans le jeu des enfants. D'abord, laisser l'enfant décider où, avec quoi, avec qui, quand et comment il joue. Donner suffisamment de temps pour le jeu libre, au moins 2 heures par jour de jeu libre.
Okay.
Limiter le temps devant les écrans, les tablettes, les ordinateurs,
les consoles de jeu. Oui, ça ne fait pas partie du jeu libre.
Non, puis ça ne fait pas partie. Limiter à 2 heures par jour, surtout pour les plus petits.
Oui.
Varier le matériel de jeu, proposer divers types de jouets et accessoires aux enfants, du bois, des matières recyclées, des déguisements, des blocs, etc. Varier les environnements de jeu et favoriser le plus possible le jeu à l'extérieur. Utiliser la cour, les parcs municipaux, amener les enfants en nature, etc. Prendre du temps pour observer les enfants jouer. Respecter le jeu de l'enfant, ne pas imposer son jeu aux enfants. Jouer avec les enfants selon leurs règles. Et voilà, c'est un texte de Mathieu Point qui s'adresse tant aux parents qu'aux éducateurs ou aux enseignants, aux préscolaires.
Ben moi, j'aimais beaucoup jouer avec nos garçons.
Oui, tout à fait.
Puis ça me manque un peu.
Oui, hein?
Oui, oui. Fait que faudrait que je me trouve...
Des enfants. Quelque part.
Ouais, quelque part.
Alors, Mathieu Point, c'est un professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Trois-Rivières et ce texte est publié sur le site aidersonenfant.com.
C'est un garçon énigmatique, un furet qui file entre les doigts. L'avez-vous vu passer par ici et repasser par là? Sans qu'il s'attarde une seule fois. 3 petits tours puis s'en va. Je ne sais pas s'il est sympathique. Par moments, on dirait presque un chat. Jamais vous ne l'entendez venir. Et soudain, il est là, qui sourit, ne parle pas. Trois petits tours et s'en va. Seul dans mon cynique, comme un ours, il inquiète et fait peur. Il faut juste ne pas forcer sa porte, ne pas jouer au plus fort, le laisser venir à soi. Trois petits tours et voilà.
Petit tour par Françoise Hardy.
Oh!
On aime bien Françoise Hardy.
Oui. Puis Maurice, est-ce qu'il va avoir du Carmen Campagne aujourd'hui, quelque part?
C'est du lit plus tard, mais si on veut une tantôt, je peux toujours regarder, mais j'en ai une pour M l'été, là.
OK, parfait. Alors, on vous invite on à sintoniser M l'été. Oui. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui va y participer et qui est à ma droite présentement. Alors, entre-temps, je vous amène à New York, visiter New York à vélo sans se fatiguer. C'est un article de Mathias Marshall dans le journal Métro d'hier du 4 juillet. Si vous revenez de vos séjours dans la grosse pomme épuisé et avec l'impression qu'il faudra vous racheter une paire de hanches et de chevilles, on vous suggère d'essayer le City Bike. C'est le cousin du Bixi. Voici une journée sur deux roues à New York où on n'a pas pu s'empêcher de faire des comparaisons avec Montréal. Fait que je vais vous lire ça comme si c'était un match de hockey. Mmh. Le réseau. Les 12 000 City Bike répartis dans 750 stations, deux fois plus qu'à Montréal, sont comme Bixi, d'une simplicité désarmante à utiliser. L'abonnement d'une journée nécessite une carte de crédit et deux minutes. Pas la peine de lire les 70 pages de contrat. Après, on a des trajets illimités tant qu'ils ne dépassent pas 30 minutes chacun. Oui, c'est plus cher qu'à Montréal, 5 $ pour 24 heures. Mais c'est bien moins onéreux que de louer un vélo ou de prendre le métro. Mm-hmm. Alors, le score, c'est New York 1, Montréal 1.
OK, c'est dans ce cas-là.
Départ. Le City Bike est de conception montréalaise, le char d'assaut du vélo, mais avec moins de vitesse que chez nous, 3 contre 7. Tu sais, tu m'as déjà demandé s'il y avait des vitesses sur les Bixi. On démarre de Brooklyn, qui ressemble furieusement à Montréal, les nids de poule en moins. Passage obligé dans une boutique pour régler un vieux litige transfrontalier. Qui fait les meilleurs bagels? Réponse, Montréal qui utilise des fours à bois.
Okay.
Score, New York 2, Montréal 2.
Bon.
Première vitesse. Pour rejoindre Manhattan, on a plusieurs options quant au pont, contrairement à Montréal. On opte pour le pont de Brooklyn, malgré l'avertissement d'une passante. « Il y a trop de piétons, tu vas pas arrêter de sacrer. » Wouhou! Sur le pont, la longue passerelle de bois surplombe les voies pour les autos et offre une vue magnifique sur le skyline new-yorkais. On donne le score ici, New York 3, Montréal 3.
Ah, on maintient l'égalité.
On maintient, mais ça va changer, vous allez voir. Deuxième vitesse, on est à Manhattan. Si vous croyez que les Montréalais sont des délinquants de la chaussée, attendez de voir New York où chacun a sa propre interprétation du code de la route. Malgré tout, ce n'est pas dangereux, car la métropole compte 1800 km de pistes, dont le tiers est en site protégé. Même au mythique Times Square, une bande verte permet aux cyclistes de passer tranquillement sans écraser un Spider-Man ou un Batman en représentation touristique. Alors, le score est maintenant New York 4, Montréal 3.
Oh.
Troisième vitesse. Le vélo en libre-service permet de profiter de chaque quartier en marchant jusqu'à la station suivante. On a ainsi admiré comment la ville a récupéré l'ancienne zone portuaire du quartier Tribeca pour offrir aux citoyens l'accès aux berges, contrairement au port de Montréal.
Mmh.
On commence à comprendre le score là, qui s'en vient.
Mmh.
On a siroté un cocktail avec vue en haut du Standard Hotel en déplorant la disparition de l'hôtel de la montagne.
Mmh. Mmh.
Cependant, notre coup de cœur reste le parc Bryant et son atmosphère incroyable. Ça ressemble au jardin Gamelin multiplié par 10. Alors là, New York a eu 3 points là-dessus. C'est 7 à 3 pour New York. Constatation éparse pour terminer. Déçu par les nouveaux buildings, même la Freedom Tower. Central Park s'est endormi sur ses lauriers. Mais où sont passés les New-Yorkais excentriques et finalement... Les Montréalaises sont bien plus belles que les New-Yorkaises. L'honneur est sauf. C'était un petit article estival qui s'appelait « Visiter New York à vélo sans se fatiguer » par Mathias Marchal dans le journal Métro d'hier du 4 juillet. Alors, j'ai bien hâte d'entendre parler de ça.
Alors, les enfants sont plus patients aujourd'hui qu'il y a 50 ans. C'est un texte de Nicolas Bérubé, publié dans la presse Plus le 4 juillet, c'était hier. Je sais qu'Hélène Denis en a parlé un peu en onde hier à son émission, mais je vous présente l'article complet.
Et il y a 50 ans, c'était nous autres, les enfants.
Tout à fait, hein? Oui. Dans une reprise du célèbre test de la guimauve de l'Université Stanford, des chercheurs américains viennent de découvrir que, contre toute attente, les jeunes enfants d'aujourd'hui sont plus patients que ceux des années 60 et 80. Vous vous demandez sans doute, qu'est-ce que le test de la guimauve?
Ben oui.
Alors, un chercheur pose deux assiettes devant un enfant qui a de 3 à 5 ans. Une des assiettes contient une guimauve, l'autre en contient deux. Le chercheur dit à l'enfant qu'il doit s'absenter quelques minutes. Si l'enfant veut manger la guimauve contenue dans la première assiette, il peut le faire à tout moment. Toutefois, s'il attend que le chercheur revienne, l'enfant pourra choisir la deuxième assiette, celle qui contient deux guimauves. Réalisée pour la première fois à l'Université de Stanford dans les années 60, ce test visant à mesurer la gratification différée a montré que les enfants qui pouvaient attendre plus longtemps avaient de meilleures notes à l'école, étaient en meilleure santé, géraient mieux le stress et avaient des responsabilités sociales plus élevées à l'âge adulte. Une équipe menée par la psychologue de l'Université du Minnesota, Stephanie M. Carlson, vient de démontrer que les jeunes Américains d'aujourd'hui sont plus patients que les enfants d'il y a 50 ans, alors que 72 % des adultes s'attendaient plutôt au contraire.
Ben oui.
Et tu fais partie de cette statistique.
Oui, absolument.
Pour réaliser l'expérience, les chercheurs ont répété le test de la guimauve. Les chercheurs ont observé qu'au cours de la période de 10 minutes que durait le test, les enfants d'aujourd'hui avaient patienté en moyenne 2 minutes de plus que les enfants qui avaient passé le test, dans les années 60 et 1 minute de plus que les enfants des années 80, selon les résultats publiés par l'Association américaine de psychologie. La presse s'est entretenue avec Mme Carlson et celle-ci s'est dite étonnée de constater que les enfants d'aujourd'hui étaient plus patients que les enfants des années 60 et 80. Et elle ajoute... Nous pensions que la gratification différée s'était dégradée en raison de l'abondance des distractions et de la prévalence du trouble du déficit de l'attention. Or, d'autre part, nous savions que le quotient intellectuel a augmenté au fil des décennies et qu'il y a eu des changements sociaux qui ont contribué à une meilleure maîtrise de soi.
Mm-hmm.
Madame Carlson signale que l'usage que font les enfants de la technologie a pu jouer un rôle positif dans ces résultats. Or, on croit souvent que la technologie a un impact négatif sur l'attention des enfants. La psychologue ajoute « L'arrivée des nouvelles technologies dans la vie des jeunes enfants peut certainement avoir des coûts, comme la dépendance aux écrans et la façon dont ils prennent la place d'autres formes de jeu. Il est important de mettre des limites. Mais l'un des effets cachés des applications interactives peut être d'entraîner les enfants à la pensée abstraite et à la pensée symbolique. On sait aussi que jouer à faire semblant est favorable à une meilleure maîtrise de soi. Alors les nouvelles technologies pourraient aussi avoir un rôle analogue. Au minimum, notre recherche démontre que la technologie n'a pas dégradé l'aptitude des jeunes enfants à choisir une gratification différée. Mais nous réitérons que ce n'est pas parce qu'ils sont capables d'attendre qu'ils vont choisir de le faire dans toutes les situations. La spécialiste mentionne que les inégalités persistent en ce qui concerne les résultats de développement des enfants qui vivent en situation de pauvreté. On lui a demandé si les enfants qui vivent dans un milieu pauvre sont plus nombreux à échouer au test de la guimauve. Elle a répondu que oui, les enfants qui vivent en situation de pauvreté ont plus de mal avec la gratification différée et on le voit dans leur temps au test de la guimauve qui sont plus courts en moyenne. Dans un environnement où les ressources sont peu nombreuses, il peut être logique de chercher à avoir une récompense tout de suite plutôt que d'attendre d'avoir une plus grosse récompense plus tard.
Qui est peut-être incertaine aussi.
On sait ça. On sait que ces résultats sont aussi vrais dans les expériences qui n'impliquent pas de nourriture. Toutefois, certains enfants qui vivent en situation de pauvreté obtiennent de bons résultats sur le plan de la maîtrise de soi et ce sont ceux qui réussissent bien à l'école. Donc, on continue de faire de la recherche pour déterminer pourquoi des enfants réussissent mieux que d'autres, afin de pouvoir suggérer aux parents et aux enseignants des méthodes qui fonctionnent pour les enfants qui en ont le plus besoin. Voilà, c'était un texte de Nicolas Bérubé, publié dans la presse Pulus d'hier, le 4 juillet.
Oh, merci beaucoup, Marie.
De rien beaucoup.
On a un petit peu de temps pour deux brèves, je pense. Ça dépend de la...
Et un mot d'enfant.
OK. Moi, je vous emmène en Suisse. En Suisse, les vélos à assistance électrique ne sont pas les bienvenus lors des slow-up. C'est des événements font la promotion de la mobilité douce. Leur vitesse moyenne, qui peut atteindre les 25 à 30 km/h, est incompatible avec des autres moyens de transport qui y participent.
J'ajoute, selon Florian, 8 ans, que non, c'est le mot préféré des parents.
Oh! Et là-dessus, je vous dis oui, vous pouvez aller prendre un café et nous revenir parce qu'on a d'autres bons articles à vous.
Vous écoutez Les Voix de service. Chez eux pour se faire une partie de quille. Grand Bill avait son bowling dans le bas de la ville, dans son building. Et Grand Bill, la petite fille qui l'aidait, he would treat her like a lady. Ariane était belle, belle comme la mer. Sa seule présence nous aidait à passer l'hiver. Ses yeux étaient clairs, sa voix était douce. À nous servir de la bière sans faire de mousse. Le rêve de ben des gars, conquérir son cœur, ou pour se consoler, obtenir un peu de ses faveurs. Granville, lui aussi, y aurait fait la cour. On entendait même dire qu'ils avaient peut-être fait l'amour. Granville avait son bowling dans le bas de la ville, dans son building. Puis un beau soir de tournoi, Granville est en pleine victoire. Quand y a un petit nouveau qui est entré, l'air un peu mêlé. Quand Ariane lui a demandé s'il voulait quelque chose à boire,
quelque chose à boire,
leurs regards se sont croisés et c'est là que tout a changé. La petite sacrée-cœur, deux semaines plus tard, était mariée. On n'a plus jamais, jamais, jamais réentendu parler. La place est vidée, Granville s'est pendu. La business a fermé, le building a été vendu. Cette maudite belle histoire que j'ai tendance à oublier, c'est ce qu'on se disait encore hier soir, Ariane pis moi.
De service, on entendait Martin Léon et Granville.
Et on vous remercie tellement, Maurice, parce que Martin Léon, c'est un des favoris de Marie.
Oui.
Moi, je vous amène sur une réflexion, une histoire autour de grands événements, puis pourquoi on s'embarque là-dedans. C'est dans les carnets d'endorphines, sous la plume, évidemment, de Geneviève Lefebvre, dans la presse du 27 juin, et ça s'appelle « La quête ». Sur des jambes fraîches, le sommet du Mont-Royal est plutôt facile à monter à la course. Peut-être. Le dénivelé est indulgent, la poussière de roche douce aux articulations et l'ombre des grands arbres protège du soleil qui plombe, surtout ces temps-ci. Pour les coureurs du Mount Royal Summit Quest, le MRSQ, un ultra-marathon urbain qui se décline en version de 50 ou 100 km, qui ont déjà parcouru respectivement 43 et 93 km, c'est une autre paire de manches, ou plutôt de jambes. Si on compte le tour de la Croix, il reste 7 km à leur quête avant d'arriver au sommet. C'est interminable, 7 km de montée quand tes jambes sont en béton armé. Mais, pourquoi font-ils ça, me direz-vous? Ils sont fous, masochistes, kamikazes? Ah, c'est leur ego démesuré. C'est uniquement pour s'en vanter sur Facebook. Voilà qui explique tout. Oui, mais non. Sur les coureurs d'ultra, soit des distances plus longues que 42 km, et de sports de longue distance en général, à vélo, à la nage, en canot, à la rame ou à la grimpe, j'ai tout entendu. Ce sont des excessifs, des crinqués, des orgueilleux qui se croient meilleurs que les autres. Des accros à leur drogue, des écervelés qui mettent leur santé en danger. Déboulons quelques mythes.
Déboulonnons. On souhaite qu'on déboule.
D'accord, allons-y avec déboulonnons. 1. Ils sont fous. Au contraire. Ils sont méthodiques, organisés, patients. Ça devait être des enfants qui ont joué quand ils étaient jeunes. Je n'en connais pas un qui se soit levé un matin en se disant « Tiens, improvisons cette quête. » Ils ont tous commencé par un premier pas, le plus difficile. Ils étaient parfois fumeurs, souvent sédentaires, et ils ont fait face aux mêmes obstacles du quotidien que la plupart d'entre nous. Simplement, ils ont persisté. 2. Oui, mais ils exagèrent. L'exagération étant toute relative, on est toujours l'exagéré de quelqu'un. Mm-hmm. Puis on est toujours le plate de quelqu'un mm-hmm. aussi, remarquez bien. Comme je dis souvent, le sport, c'est un sac de chips. J'aime beaucoup cette comparaison. Tu penses que tu vas en manger juste une, et puis tu t'habitues au goût des poivrons crème de Miss Vicky et tu vides le sac. Tu pensais courir 3 km de temps en temps juste pour dire que tu gardes la forme et paf, tu te retrouves à la ligne d'arrivée d'un marathon, ta première médaille au cou, stupéfait, t'as vidé le sac. Et maintenant que t'as vu le fond, t'as juste le goût d'en ouvrir un autre. Hey, j'ai jamais essayé ça, les chips aux cornichons. 3. Ils ont un égo démesuré, c'est juste pour se vanter. Oui, mais non encore. C'est trop dur. Quand t'as tellement mal qu'un même sourire à quelqu'un qui t'encourage te semble au-dessus de tes forces, crée-moi, la dernière affaire à laquelle tu penses, c'est de te vanter. D'ailleurs, l'ego est l'une des premières choses qui soit malmenée dans le sport d'endurance, un exercice constant d'humilité face à la douleur, aux limites, aux abandons. Comme n'importe quelle quête, la parentalité, l'obtention d'un diplôme, la maîtrise d'un concerto, la découverte d'un traitement contre le cancer, celle-ci est difficile, parsemée d'obstacles, de petites et de grandes défaites. 3B, on est toujours dans l'ego démesuré. Mm-hmm. Ah, mais c'est pas pareil guérir le cancer et faire du sport. Tout à fait juste, Watson. Les détails changent, la tenue aussi. Mais l'essence de ce que ça prend pour se rendre au bout de la quête est la même. Ténacité, persévérance, humilité, patience, courage, discipline, imagination. Oui, oui, imagination. Il faut pouvoir le rêver avant de passer à l'action. Et quand c'est dur pendant l'action, il faut encore pouvoir le rêver pour tenir bon. 4. Oui, mais il se vante quand même, non? Quand au bout de la quête, on touche parfois aux étoiles, la fierté fait partie de l'équation. Et elle est belle à voir, à toucher et à partager. Mieux, elle donne aux autres la permission de briller, eux aussi. 5. Ça ne doit pas être bon pour leur santé. Dites ça à la brute dont le corps brûlé par le soleil, desséché par le vent et ciselé de 1000 meurtrissures vient de monter l'Everest, de ramer d'un continent à l'autre ou de courir l'Appalachian Trail, 46 jours, 11 heures et 20 minutes pour Jennifer Farr Davis, le record au féminin. Et il ou elle vous regardera avec de grands yeux encore embués de toutes les ivresses. Je sais pas si je suis en santé, mais je suis en vie. Jusqu'à la moelle, jusqu'au trognon, jusque dans mes ongles qui viennent de tomber. Passe-moi donc le sac de chips. À minuit dimanche, du jour où ça s'est fait, l'heure où la plupart des gens sont déjà couchés, les coureurs du 100 km du Mount Royal Summit Quest, et je vous reviens là-dessus, ont pris le départ, ils ont dévalé le Mont-Royal, longé le fleuve jusqu'à Beaconsfield, où ils ont retrouvé les coureurs du 50 km, et ensemble, ils ont fait le trajet en sens inverse jusqu'à la dernière conquête, jusqu'au sommet, avec des jambes de plomb. Pourquoi ils font ça déjà? Rêver un impossible rêve, aurait chanté Brel, ce fervent excessif qui dévora la vie jusqu'au fond du sac. Mmh. Alors, c'était dans les carnets d'endorphines, La quête, de Geneviève Lefebvre dans la presse du 27 juin.
Wow. Alors,
dit-elle.
Oui, verdissement de cours d'école.
Oui, il fait chaud, hein, ces temps-ci?
Il fait chaud, on parle d'îlots de chaleur. Alors ici, je vous présente 4 îlots de chaleur transformés en îlots de fraîcheur et de bonheur. C'est un texte de Valérie Levé, publié sur le site 100degrés.ca le 22 juin. Toutes les grandes surfaces asphaltées sont susceptibles de créer des îlots de chaleur et les cours d'école n'y échappent pas. Zoom sur 4 projets de réaménagement qui ont réussi à faire d'une pierre deux coups, réduire les risques à la santé liés aux îlots de chaleur et favoriser l'activité physique des élèves. Alors, je joue un petit peu dans ta cour d'école.
On partage,
c'est ça. La formation d'îlots de chaleur dans une école n'est pas qu'un problème environnemental, mais aussi un enjeu de santé publique. Lorsque la cour se réchauffe, les enfants ont tendance à délaisser les jeux pour se réfugier dans les rares parcelles d'ombre. Et dans le contexte des changements climatiques, le problème risque même de s'aggraver. Si la solution peut s'avérer évidente, soit verdir la cour d'école, elle peut s'avérer difficile à réaliser, notamment en raison du coût important des travaux d'aménagement. C'est la raison pour laquelle le ministère de la Santé et des Services sociaux a entrepris de soutenir des projets de verdissement de milieux de vie comme ceux des écoles, des garderies et des ruelles, dans un programme piloté par l'Institut national de la santé publique, l'INSPQ, et en référence à la mesure 21 du plan d'action contre les changements climatiques 2006-2012. Bon, ça date un peu, mais quand même. Plusieurs écoles ont profité de ce programme, aujourd'hui terminé évidemment, de verdissement. En voici quatre exemples. D'abord, l'école Cœur Vaillant, un projet de démonstration. Développé par l'organisme Vivre en ville, ce projet pilote sert de démonstrateur dans le guide « Verdir les quartiers, une école à la fois ». La cour d'origine de cette école se composait essentiellement d'un stationnement asphalté et d'un terrain de soccer en poussière de pierre compacté. D'une taille disproportionnée comparée aux besoins de ses utilisateurs, le stationnement a été réduit et séparé des espaces de jeu. Des arbres ont également été plantés autour du stationnement pour réduire l'îlot de chaleur généré par cette surface asphaltée. La partie du terrain consacrée aux espaces de jeu comprend dorénavant quatre zones. Contre le bâtiment, une section asphaltée arbore des motifs de jeu peints. Le terrain de soccer a été engazonné et un sentier invite les jeunes à déambuler sur son pourtour. Le terrain asphalté et le terrain de soccer sont séparés par une large allée verte bordée d'arbres. Et dans un autre coin gazonné de la cour, des ginkgo biloba ont été plantés en demi-cercle pour servir de classe verte. Les ginkgo, par leur feuillage éclatant à l'automne et parce qu'ils existaient à l'époque des dinosaures, je suis certaine que tu ne savais pas ça, sont particulièrement appréciés des enfants.
Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas sur les arbres, même aujourd'hui. Hein.
L'école Marguerite Bourgeois, c'est un projet initié par les élèves. À l'école secondaire Marguerite Bourgeois de Saint-Jean-sur-Richelieu, la cour d'école asphaltée et le stationnement ne faisaient qu'un. Les élèves ont décidé eux-mêmes de changer les choses. Appuyés par leurs professeurs, ils sont allés cogner aux portes des commerçants pour compléter le financement de leur projet. Résultat, près de la moitié de la cour a été engazonnée et ornée de 350 plantes. De plus, 30 arbres sont venus ombrager et agrémenter la cour, ainsi que le pourtour des bâtiments. À l'école Saint-Octave, des blocs de béton deviennent des jeux. À Montréal-Est, c'est la commission scolaire Pointe-de-l'Île qui a entrepris de verdir la cour de l'école primaire Saint-Octave. L'asphalte a été remplacé par du béton, plus clair et donc moins propice à la formation d'îlots de chaleur. Mieux encore, des blocs de béton ont été disposés pour créer une classe verte et une aire de jeu. Une trentaine d'arbres nouvellement plantés assurent la fraîcheur des lieux. Les enfants ont vite fait usage de leur imagination pour s'inventer des jeux à partir de ces blocs de béton. Et finalement, l'école Maria Goretti, une cour aux quatre couleurs, elle est à Thurso, en Outaouais. La commission scolaire de Au cœur des vallées et le comité de parents ont entrepris de métamorphoser la cour de l'école primaire Maria Goretti en la découpant en quatre secteurs. Chacun d'entre eux est voué à un usage précis, désigné par une couleur spécifique. La zone verte est ainsi dédiée à la nature, la jaune à la découverte, la bleue à la détente et la rouge au sport. Et bien sûr, le tout est agrémenté par un aménagement paysager végétalisé. Des plates-bandes et 200 arbres apportent de la fraîcheur, tandis qu'un sentier vert, un ruisseau sec et une plage invitent les élèves à se promener dans la cour. Dans la zone de sport, des modules de jeu formés de troncs d'arbres dessinent un parcours pour développer les habiletés motrices ou tout simplement pour jouer. Ah, je répète, c'est un texte de Valérie Levé, publié sur le site 100 degrés, 100 comme le chiffre, le nombre, 100degrés.ca.
Fahrenheit.
Voilà, tout à fait.
Puis tu sais, c'est qui la célébrité qui vient de Tursault?
Pas du tout.
Guy Lafleur.
Oh, Guy Lafleur.
Et là, je vous raconte une histoire qui est vraiment étonnante et fantastique. C'est dans le cadre du demi-Ironman qui a eu lieu à Mont-Tremblant le 24 juin dernier, sous la plume de Sophie Allard, dans la presse. Lors de cette 7e édition du demi-Ironman de Mont-Tremblant, il y a eu des articles sur 4 participants amateurs qui étaient fort probablement très fébriles au départ. Et je vous présente le dernier de ces articles-là. Maintes et maintes fois, on a répété à Anne-Sophie Brunetta qu'elle n'y arriverait pas. Née sans son avant-bras gauche, la jeune femme parlait de son désir de faire du triathlon. Son entourage, d'abord étonné, se montrait très sceptique. « Ne laissez pas les autres vous imposer vos limites », insiste-t-elle. Paratriathlète depuis 2 ans, elle ne vise rien de moins qu'un podium pour cette course du 24 juin. Dans sa zone de transition, on trouve un vélo adapté, une paire de souliers de course et 2 avant-bras. Elle enfile une prothèse pour le vélo et ensuite une autre pour la course à pied. En raison du stress, j'ai déjà oublié de changer de prothèse, mais ce n'est pas dramatique, elles sont semblables. C'est surtout une question de confort, dit-elle en riant. L'idée de faire du triathlon a germé dans sa tête il y a quelques années alors qu'elle était spectatrice du demi-Ironman ici même à Mont-Tremblant. Je voyais tous ces gens franchir la ligne d'arrivée et je voulais en faire partie. J'ai toujours été sportive, mais avec un seul bras, j'ai cru que ce serait peut-être pas possible. Puis, j'ai vu arriver des participantes aveugles, d'autres âgées de 75 ans ou en surpoids. S'ils y arrivent, pourquoi je ne pourrais pas au moins essayer? Hésitante, elle a participé à un premier triathlon, distance olympique en 2016. Les distances sont un peu plus courtes. Je nage sans prothèse, à un seul bras. Je ne savais pas comment j'arriverais à me débrouiller lors du départ de masse dans l'eau. Ça peut être agressif. Elle s'est débrouillée. La portion vélo l'inquiétait davantage. J'avais un vélo de route ordinaire. C'est sensible et réactif. Puis là, mettez-vous dans la tête un vélo avec des freins à gauche, à droite, des vitesses à gauche et à droite. Je ne pouvais pas freiner de l'avant et je ne pouvais changer les vitesses qu'avec ma main droite. C'était un peu plus compliqué. Malgré ces difficultés, elle est immédiatement devenue une mordue. En franchissant la ligne d'arrivée, elle n'a pu s'empêcher d'éclater en sanglots. Elle avait réussi envers et contre tous les préjugés. Depuis, elle prend le triathlon très au sérieux, finissante en droit. Elle s'entraîne au moins 15 heures par semaine. Il y a peu de modèles féminins dans le sport. Avec un handicap, il n'y en a pratiquement pas. Je veux montrer qu'avoir une différence, ce n'est pas si grave. On ne doit pas s'empêcher de foncer. Depuis l'an dernier, elle roule sur un vélo adapté conçu spécialement pour elle par la société Argon 18. Elle s'est familiarisée avec les ondes de transition. Elle reçoit de l'aide pour retirer sa combinaison isothermique. Elle a rejoint l'équipe de BART Coaching, a découvert de petits trucs pour améliorer ses performances. Mon coach croit énormément en moi, on trouve des solutions ensemble. En faisant du triathlon, elle retrouve l'esprit compétitif qui l'a nourrie pendant les 10 ans où elle a fait du ski acrobatique, quand même. La compétition me manquait. Ce que j'aime du triathlon, c'est le dépassement de soi. Quand tu commences par des distances olympiques, le demi-Ironman semble hors d'atteinte. Juste pour vous faire une idée, le demi-Ironman, c'est le double de la distance olympique.
OK.
La nage, le vélo, puis la course, c'est, toutes les distances sont deux fois plus. Puis tu t'entraînes et tu franchis une nouvelle étape. La première fois que tu réussis un 70,3, ça c'est la distance totale, c'est vraiment spécial. Le corps est constamment amené à se dépasser, les objectifs sont revus à la hausse. Cette première participation au demi-Ironman de Mont-Tremblant a été assurément émotive. C'est ici que son rêve avait pris forme. J'ai commencé à faire du triathlon pour franchir cette ligne un jour dans ma vie. Ce sera spécial de terminer la course devant mes proches. L'athlète de Boucherville, qui a compétitionné dans la catégorie Physically Challenged Open Division, le PC, puis j'ai regardé dans les résultats, c'est FPC, comme Female Physically Challenged, aimerait repartir des Laurentides avec une médaille au cou. Mais encore plus important, elle souhaite inspirer des jeunes ayant un handicap à foncer et à aller au bout de leurs rêves. Quand j'étais jeune, je pensais que le sport était inaccessible à ceux qui ont une différence. Je veux montrer que tout est possible si j'y arrive. Ce sera mission accomplie. Alors, dans sa division de Physically Challenged, elle a terminé première. Donc, elle a une médaille d'or. Dans les femmes, toutes catégories confondues, elle a terminé 305e. Donc, elle a réussi elle a atteint son objectif de faire le demi-Ironman de Mont-Tremblant, même avec son handicap. Donc, c'était l'article « Demi-Ironman Mont-Tremblant sans limite » de Sophie Allard dans la presse du 24 juin.
Bravo.
Marie!
Oui, la semaine passée, je vous ai mentionné la possibilité d'aller dans les parcs de la ville de Montréal voir le spectacle de la roulotte qui est sur le Petit Prince, qui s'appelle Astéroïde B612. Mais cette fois-ci, je vous parle de Guignol dans le parc. Le Guignol est de retour tout l'été au parc La Fontaine, situé dans l'ancienne guérite du Jardin des Merveilles, souvenir.
Oui.
Le petit théâtre de marionnettes prend vie trois fois par jour, du mercredi au dimanche. Petits et grands sont invités à assister gratuitement à Tigus fait du camping, spectacle inspiré très librement de la tradition européenne. Alors, on peut voir ça, je répète, du mercredi au dimanche à 13h, 14h30 et 16h. Donc, l'ancienne guérite du Jardin des Merveilles, au Parc La Fontaine. Voilà.
Merci. Alors, de mon côté, je vous déboulonne, c'est ça, hein?
Déboulonne.
Un des mythes sur le vélo. Alors, ce mythe-là, c'est si tu fais du vélo, tu auras de grosses cuisses.
Ah, c'est pas vrai, ça?
Ah! Un débutant verra une légère hausse de la masse musculaire, mais après un certain temps, cette augmentation se stabilisera. Le muscle est composé de différents types de fibres musculaires, type 1 et type 2. Les premières sont efficaces pour l'endurance, les secondes pour la force. Le vélo est un sport d'endurance et sollicite davantage les fibres musculaires de type 1. Or, elles ne prennent pas énormément de volume, contrairement à celles de type 2. Il n'y a qu'à regarder les cyclistes professionnels du Tour de France, ceux qui ne sont pas dopés, pour s'en convaincre. Seuls certains coureurs ont une masse musculaire très développée au niveau des cuisses. C'est le cas des sprinteurs, car ils fournissent des efforts physiques très intenses sur de courtes périodes et sollicitent les fibres musculaires de type 2. En conclusion, pour le commun des mortels, dont moi, la pratique du vélo ne permettra qu'une augmentation très limitée de la taille des cuisses.
Alors, on peut jouer au centre-ville, saviez-vous ça, au Jardin Gamelin. L'été est commencé.
Oui, j'en ai parlé tantôt.
Ben oui, il y a une maison de jeu, un conteneur jaune placé du côté est du jardin et transformé en maison de jeu ou en ludothèque. Il y a des ateliers de création, diverses autres activités. c'est accessible pour les 5 à 7 le vendredi. En fait, ça commence à 15 heures, là, mais ça finit à 7 heures. Et les samedis et dimanches, entre 10 heures et 19 heures. Tous les dimanches matin, on peut voir un spectacle. Il y a un espace dédié à l'animation, l'initiation à la lecture pour les 0 à 5 ans, le chalet ambulant du gros A, des ateliers, des présentations théâtrales qui s'y tiennent. Il y a des jeux d'ados et de pré-ados aussi. Le club de jeux Randolph pour les 9 à 14 ans, accessible tous les dimanches de 14h à 16h. On peut jouer à des jeux de société, de stratégie, il y a des tables de ping-pong. C'est vraiment un endroit à fréquenter.
Bravo! Mm-hmm. Que feriez-vous si votre fils voulait apprendre à rouler à vélo? L'Allemand Stefan Rohrke lui a touché du bois. Au propre comme au figuré, sans la moindre expérience, notre artiste multidisciplinaire a fabriqué une draisienne en bois. Cela lui a donné l'idée de se fabriquer son propre vélo en bois dans le style même Chopper Vintage. À l'occasion des 200 ans de la bicyclette, Stéphane s'est lancé dans un tour d'Allemagne de 2500 km avec sa bécane en hêtre, H-E-T-R-E, pour démontrer que son vélo n'était pas qu'une belle sculpture de bois. Et c'est là-dessus qu'on termine. Un gros merci à Maurice Bolduc, merci à Marie Lalande, merci. Et on se revoit la semaine prochaine!